Alors, je m'appelle Cécile, j'ai presque 50 ans, je suis psychologue. J'ai aussi des troubles du neurodéveloppement, j'ai trois enfants. J'ai un parcours assez varié puisque j'ai été prof de lettres pendant un moment. Ensuite, j'ai fait l'école à la maison, j'ai fait du bénévolat pour la Leche League. Donc, j'ai été super intéressée par l'émission, là, le podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps avec ce qui est devenu la Leche League. Et puis, entre-temps, j'ai repris des études de psycho et maintenant, je suis psychologue, notamment pour les enfants. Mais pas que. J'ai toujours été critique du genre. Les stéréotypes de genre, c'est un truc assez éloigné en fait de ma manière de vivre. Et il y a beaucoup de choses que je trouve très préoccupantes, notamment pour la santé mentale des jeunes, mais aussi parce que le langage tel qu'il est utilisé actuellement par l'idéologie trans crée une distorsion de la réalité que je trouve extrêmement préoccupante et à mon avis qui menace la cohésion de la société globalement.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
J'ai toujours été critique du genre, tout simplement parce que j'ai été dans une famille dans laquelle les stéréotypes de genre n'existaient pas. C'est-à-dire que j'ai des parents qui sont d'extrême gauche. Donc ma mère, elle avait 18 ans en 1968. Elle a vécu la libération de la femme, les femmes qui arrivent, qui commencent à mettre des pantalons, l'accès aux comptes bancaires et tout. Et à l'époque, à l'extrême gauche, l'émancipation des femmes, notamment l'émancipation par rapport à tout ce qui était les asservissements religieux, sociétaux et idéologiques, c'était considéré un peu comme la base en fait de la philosophie de gauche. Malheureusement, bon, ça a beaucoup changé. Et donc du coup, moi, j'ai toujours vu mon père passer le balai. Mes parents n'étaient pas mariés. Mon père assistait alors qu'il n'était pas marié avec ma mère à l'accouchement de ma mère. Donc, à l'époque, c'était quand même un truc, on va dire, c'est incroyable, hein, c'était quand même assez rare. Et donc, du coup, ma mère et mes parents ont toujours une position assez distanciée, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que le genre, pour eux, ça n'existe pas. C'est un asservissement comme un autre. Ce qui existe, c'est le matérialisme, donc c'est la réalité, vraiment d'être sexué. C'est l'accaparement de la procréation par le patriarcat qui est la vraie problématique. Et il y a des idéologies au cours du temps qui permettent de vendre ça aux femmes, parce qu'on sait très bien que l'aliénation, c'est très important et qu'il faut que la personne qui est aliénée s'approprie aussi son instrument d'aliénation. Et d'ailleurs, on sait très bien que les femmes sont souvent très impliquées dans le maintien, en fait, des structures qui sont très aliénantes. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours un peu vécu là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que ce qui fait l'asservissement de la femme, c'est l'appareil reproducteur des femmes, parce qu'il prive l'homme d'une forme de toute puissance, c'est-à-dire qu'il est obligé de reconnaître l'altérité dans quelque chose qui limite son pouvoir. Et une des manières de limiter, enfin de pouvoir justement vivre ça pour les hommes, c'est la dégradation systématique de tout ce qui est le féminin. Donc, le féminin n'est pas payé, le féminin est bénévole, le féminin est méprisable. Avoir des enfants, c'est quand même complètement asservissant. Alors que quand l'homme écrit une œuvre, alors là, il accouche d'une œuvre d'art, c'est extraordinaire, parce que c'est une pure vue de l'esprit. Mais par contre, la femme, avec ses règles dégueulasses, enfin bon, bref, alors être une femme, c'est la pire perversité. Et effectivement, ma mère, elle a beaucoup insisté, enfin, dans notre vie, sur la manière dont le féminisme, à un moment aussi, a collé aussi à ce truc-là. C'est-à-dire qu'être une femme, c'était coller un petit peu à l'individualisme néolibéral, hyper masculiniste, Donc, il faut travailler être productif, cacher tout ce qui fait justement l'aspect très fluctuant, de non linéaire de la féminité et la négation de tout ce qu'est la biologie féminine, quoi, la procréation, l'allaitement, le sein maternel, le sein qui allaite, le sein féminin. Donc, le corps n'existe que comme objet de désir. Et je pense qu'en plus, la médecine occidentale, qui considère que chaque bout du corps est un peu un truc à rabibocher, ça a un impact aussi très morcelant là-dedans.
Donc quand tu dis, tu utilises le terme très linéaire, c'est finalement une façon d'effacer la part féminine des êtres humains, quoi.
Oui, bien sûr, parce que de tout temps, la femme, c'est une forme de cycle.
Oui, bien
Le
sûr, ne serait-ce que les
masculin
règles.
et la femme, c'est tous les 28 jours. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose, une temporalité qui n'est pas la même. Enfin, je veux dire, être une femme, c'est pas anecdotique. C'est un rapport au temps qui n'est pas le même. On a un rapport au temps qui est quand même marqué par le début de nos règles. Là, je suis en train de vivre ma préménopause. C'est quelque chose, une préménopause. Qu'on ait eu des enfants, pas des enfants, ça interroge sur la fin d'un cycle. C'est la fin d'une période de notre vie et c'est quelque chose qu'on vit. Les bouffées de chaleur, enfin, je veux dire, c'est pas anecdotique du tout.
Et le
Les
syndrome
syndromes
prémenstruel aussi, oui, bien
prémenstruels, les
sûr.
changements, enfin, je veux dire,
C'est vrai.
on ne peut pas
En fait,
dire
la
que
vie des femmes est faite de cycles plus ou moins courts, cycle
oui.
menstruel, cycle de la grossesse, et cycle aussi de
Et
la
je
fécondité.
pense qu'il nous rattache à l'animalité de l'être humain.
D'accord. Et en effaçant ça, effectivement, on
On
efface
efface tout, on
ce qui fait
efface
que les
notre
femmes
apparence.
sont des femmes.
Ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, comme les plantes, c'est-à-dire que c'est vraiment la négation de la matérialité de l'être humain. On ne peut pas s'abstraire de notre condition d'être vivant quand on est une femme.
D'accord, très bien, merci pour ces précisions.
Donc j'ai vécu là-dedans, et comme je suis la digne héritière des années 80, j'étais persuadée que nous allions vers l'avènement du progrès. Ça allait être la fin du patriarcat. La démocratie allait triompher, on allait enlever, tout allait aller mieux, il y aurait plus d'égalité, les droits des femmes et tout. Et là, claque dans la figure, je vois un jour, dans les années 90, une interview de Jacques Attali. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, là, on est mal barré. Et Jacques Attali, donc un grand homme émancipateur de la femme, était en train de dire qu'on allait inventer l'utérus artificiel. Et
Lol.
ça allait être génial parce qu'on allait libérer la femme de la contrainte qu'il y avait à porter un enfant. Et alors là, je l'ai vécu comme l'humiliation suprême, c'est-à-dire que j'étais réduite à mon utérus. C'est-à-dire qu'on niait tout l'affect qu'il peut y avoir dans le fait de porter un enfant, dans la transmission de plein de choses qu'on peut avoir quand on a porté un enfant. Et d'un seul coup, on devenait comme, je sais pas, une vase à bébé. Donc, on mettait, et avec ce truc-là d'abord de dégrader ce qui fait la maternité. Enfin, je veux dire, c'est pas que des vasques à bébé, les femmes. Il faut arrêter comme cette histoire de personnes à utérus. Enfin, je veux dire, c'est
Oui.
odieux de.
C'est aussi toute la phase où on a énormément dévalorisé l'allaitement. Et moi, je fais partie des femmes qui l'ont questionné. Effectivement, l'allaitement, bon, on n'est pas des vaches. Après tout, il y a des poudres, c'est très bien, etc. C'est un peu la même logique. Et moi, j'ai cru. Et ce qui fait que sur mes trois enfants, je n'ai pas allaité ma première fille. Et ce qui m'a rendue très malheureuse ensuite, quand je me suis aperçue que, bah, non, je n'ai pas un veau, en fait. J'ai un bébé humain.
Oui.
Et donc forcément, ça fait partie des choses qu'on doit accepter, mais qu'on nous a poussé à effacer comme on
Annie.
efface les règles en les
Oui.
mettant bleus à la télé, etc. Tout ça. Et puis même accepter la notion de syndrome prémenstruel dont tu en parlais là tout à l'heure, c'est un truc de fou, c'est complètement nié. Et on le nie pourquoi? Parce qu'une des façons d'insulter les femmes, c'est de lui dire, t'es énervée, tu vas avoir tes règles. Et ben,
Ouais, bien
du
sûr.
coup, tu caches ça. Alors qu'il y a des femmes qui souffrent terriblement, psychiquement ou physiquement, au moment de leurs règles.
Je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on dégrade ce qu'on ne peut pas avoir. Je me souviens, alors, quand j'étais animatrice de la Leche League, un des trucs qu'on nous disait qui était important pour nous, c'était de dire, voilà, le père peut trouver une place dans la relation à l'enfant, mais il n'est pas obligé de donner le biberon. Pourquoi vouloir donner le biberon absolument? Alors qu'il y a tout le bain, le machin, non. Mais c'est parce qu'à un moment, c'est une relation, c'est cet aspect très unique de la relation mère-enfant qui se fait par l'allaitement. Et c'est insupportable de voir quelque chose et d'en être exclu. Et d'ailleurs, on voit bien là ce que décrivait très bien, je ne sais plus le nom de cette intervenante.
Catherine,
Voilà.
Catherine.
Ce qu'elle disait très bien, c'est la première chose qu'on voit, c'est les revendications pour se faire greffer un utérus, pour pouvoir allaiter. Enfin, je veux dire, alors que nous, quand on allaite, c'est réac. Enfin, ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'un mec qui allaite, ça, c'est hyper progressiste. On est à la pointe du progrès. Par contre, la mère qui allaite, c'est la vieille catho réac bonne à jeter au chien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un deux poids, deux mesures qui reste quand même assez fascinant toujours. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé à m'inquiéter. C'est-à-dire qu'avant, j'étais très optimiste. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et je m'inquiète depuis longtemps. Parce qu'on sait très bien qu'on va vers un monde où il y aura de moins en moins de ressources. Et quand même, on voit les attaques aux droits des femmes partout, avec des revendications qui sont quand même de pouvoir avoir accès à des espaces qui protégeaient les femmes et qui nous permettaient quand même de pouvoir avoir accès, nous aussi, à certaines ressources, alors qu'on n'a pas la force pour nous. Et moi, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce qu'effectivement, on sait que bah, malheureusement, les mouvements idéologiques, l'émancipation des femmes, tout ça, ils fonctionnent tant qu'ils sont quand même portés par des dynamiques économiques. Moi, c'est mon côté un peu marxiste d'extrême gauche, hein, et que les femmes et les enfants sont des variables économiques d'ajustement. La femme, on lui dit qu'elle est libre, libre de sortir quand il y a besoin de main-d'œuvre, libre de retourner faire la popote quand il n'y a plus besoin de main-d'œuvre, hein. Libre de consommer quand il y a besoin de l'industrie que des cosmétiques. Enfin, et du coup, moi, je pense qu'il y a une dynamique beaucoup plus grave, je pense, pour les droits des femmes que ce côté un peu superficiel qu'on peut voir les paillettes, les drag queens, machin. Moi, je pense que ça cache quelque chose qui est une menace et qui est une menace qu'on doit voir sur le long terme aussi. C'est-à-dire comment on va pouvoir s'accaparer les ressources dans un contexte où il va y en avoir de moins en moins.
D'accord.
Pour moi, on ne peut pas ne pas mettre en lien à la fois l'augmentation de l'islamisation dans les pays du Moyen-Orient, avec le retour quand même à un islam extrêmement dur, et le mouvement qui se passe ici sous un contour progressiste. Mais il y a quand même une même dynamique d'asservissement des femmes quand même.
Oui, c'est plus ou moins visible. Effectivement, il y a des niveaux de violence contre les
Bien
femmes qui
sûr, c'est
sont
ça.
pas les mêmes, mais il y a peut-être effectivement une
Moi, je pense qu'une
misogynie.
idéologie ne se maintient pas s'il n'y a pas des dynamiques beaucoup plus profondes à l'œuvre.
Et
Surtout
là...
quand elle est délétère à ce point. C'est-à-dire que quand on entre dans une phase de délire comme ça, alors il y a sûrement des choses qui sont très fortes pour maintenir une telle folie.
La misogynie.
Je ne suis pas sûre que ça explique tout.
Tu l'expliquerais comment, toi, alors?
Moi, je pense qu'il y a des enjeux économiques. Après, c'est mon analyse qui est très personnelle, mais je veux dire, il y a quand même eu un moment où on a eu ce truc-là de parité. La parité, ça crée quand même la moitié des ressources qui partent.
Oui, enfin, ça, c'est en théorie, parce que dans les faits...
Oui, mais même, je veux dire, c'est toujours trop.
Oui, c'est ça, mais quand on regarde, 1% du foncier mondial est détenu par les femmes qui assurent plus de 66% des heures de travail. Voilà.
Oui, bien sûr, mais je pense que même ça, c'est trop. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, dans le sport, on sait très bien qu'il y a des enjeux symboliques, mais financiers aussi.
Oui, c'est sûr que ce qui s'est passé notamment là au JO en boxe, clairement, l'affichage de dire il y a autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes, c'est insupportable. Donc il faut bien qu'il y ait des médailles qui aillent aux hommes quand même.
Oui, je pense qu'il y a un moment où il faut quand même qu'il y ait une forme de suprématie qui reste en place. Quitte à dire qu'être une femme, c'est être un homme. Ça, c'est pas... On n'en est pas à une incongruité prête. Hein. Enfin, je veux dire.
Oui, c'est vrai.
Après, moi, j'ai toujours été critique du genre parce que ben, ça n'existe pas, le genre. C'est une construction sociale. Et donc, quand j'ai vu les petites patientes de mon cabinet venir m'expliquer la non-binarité, au début, j'ai cru que c'était une blague. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, des mecs de 20 ans qui viennent nous expliquer à des femmes de 50 ans ce que c'est qu'être une femme. Donc, je me suis dit, c'est tellement gros. Enfin, ça va, voilà, c'est TikTok, quoi. En 2 mois, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est enfin, un moment, on rigole au début. On se dit, c'est une blague, quoi. Tu vas m'expliquer, jeune homme, ce que c'est qu'être une femme. Pardon, mais laisse-moi rire. Et là, d'un seul coup, je me rends compte que les partis politiques adhèrent à ça, qu'en Nouvelle-Zélande, la première ministre, là, oh, chouette, une femme, n'ose même pas dire ce que c'est qu'être une femme, tellement ça devient un sujet sensible. Qu'il y a les mutilations qui existent là pour les doubles mastectomies, c'est-à-dire que quand même on est en train de mutiler des corps sains. Alors après, le problème, c'est qu'on ne s'attend plus à grand-chose au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu avec la chirurgie esthétique où on a transformé toutes les gamines de 20 ans en bimbo, influenceuses interchangeables, que effectivement après, on ne peut pas dire qu'on est déçu de ce qui se passe. Enfin, c'est-à-dire, il y a une forme de cohérence où on se dit, à force de faire n'importe quoi, on n'est plus à ça près, quoi. La GPA, le fait de voir des femmes de 60 ans chez qui on induit des grossesses, enfin, je veux dire, on est dans un monde en perte de repère, en fait, complètement. Et donc après, tout devient déconnant, quoi. Donc au début, on se dit ça va passer, et puis au bout d'un moment, on se dit non seulement ça ne passe pas, mais en plus c'est de pire en pire. Et normalement, je pense que les adultes, en tant que catégorie, ont un moment où ils disent bah, ça suffit la récré, quoi. On va arrêter de jouer et on est là pour fournir des repères, mais là, les adultes ne le font plus. Et puis il y a les appels au féminicide. Progressiste, sauve un trans, tue une TERF. Alors, ça, c'est génial. On peut dire sauve un trans, tue une TERF. Pas de souci. Donc, on voit des mecs dire ça avec une batte de baseball, mais manifestement, c'est progressiste. Enfin, bon, ça devient n'importe quoi. Donc, on sait même plus quoi dire.
C'est cauchemardesque en fait. Ouais.
Après, je suis pas du tout fan de Jordan Peterson, hein.
On tue
Mais bon,
personne.
il a le droit de dire ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, à un moment, le voir, devoir faire un camp de rééducation, là, je sais pas quoi. Pour un mec qui a été prof à Harvard, comme quoi il sait pas ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, faut arrêter le délire, quoi.
C'est quoi l'histoire? Excuse-moi, j'ai dû
Ah,
rater
Jordan
l'épisode.
Peterson. Alors, Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien. Il est, bon, c'est un psychologue, on va dire, de droite, très catho. Il a très tôt, hein, quand même, été critique par rapport à l'idéologie trans. Et il a eu le malheur de faire des tweets, alors pas transphobe, hein, je veux dire, il a juste dit, alors il critique deux choses, à savoir la body positivité, c'est-à-dire que dire que être à 120 kilos, c'est sain, lui il trouve que là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Et il critique aussi la dynamique trans qui, voilà, bon, qui est complètement déconnante. Et là, il a été rappelé à l'ordre il n'y a pas longtemps par le Collège des psychologues au Canada parce que ses propos avaient pu légèrement blesser les gens. Donc, on lui a demandé de se taire. Et là, pour conserver sa licence, il faut qu'il fasse un camp, enfin un groupe de 3 jours. Là, on va lui expliquer pourquoi il n'a pas le droit de dire ce qu'il dit, quoi, grosso
Il
modo.
doit regagner des points sur son permis, c'est ça?
Ouais, un truc dans le genre. Alors, je veux dire, c'est quand même un mec qui a été prof à Harvard. Donc, il sait ce qu'il dit. Donc, après, ils ont qu'à lui dire clairement, nous, on ne cautionne pas ça, machin. Mais là, c'est le côté du camp de rééducation. Enfin, ça fait un peu sale, hein, quand même, je trouve. Mais aux États-Unis, il y a énormément de psychologues, plutôt à droite, parce que de toute façon, maintenant, dire qu'on n'est pas pour l'idéologie trans, c'est être facho. Donc, je veux dire, malheureusement, même quand je vois des fois, enfin, Dora Mouto et Marguerite Stern, là, qui sont obligées d'aller parler dans des trucs hyper à droite, réac, pour pouvoir se faire entendre, là, ça fait mal au cœur pour elles, quoi. Enfin, je veux dire, un moment. Mais c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, il y a plein de gens aux États-Unis, des psychologues, hein, qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir exercer. Ou alors, ils décident d'exercer en tant que consultant. Notamment tous les psychologues qui soutiennent les familles qui sont touchées par ça.
Et donc, exercer en tant que consultant, c'est-à-dire que du coup, ils s'affranchissent des contraintes liées au
Voilà,
Conseil de l'Ordre, c'est ça?
exactement.
D'accord.
À
Et ça,
partir du
c'est
moment.
au Canada, aux États-Unis, mais pas en France encore.
Pas en France, parce qu'en France, on n'a pas d'ordre. Donc, comme on n'a pas d'ordre, pour l'instant, on a un code de déontologie qui reste individuel, c'est-à-dire qu'on nous demande de voir nous-mêmes avec nos valeurs. On n'a pas d'ordre qui vient nous dire ça, tu as le droit de le dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire. Alors qu'aux États-Unis, c'est le plus. D'ailleurs, quand il y a eu l'histoire de Jordan Peterson, parce que là, on se pose un peu la question d'avoir un conseil de l'ordre aussi. Ça a été mis en place par le gouvernement, là, ils veulent le faire. Et tout de suite, il y a des psychiatres qui ont dit, regardez ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez avoir les mêmes choses?
Oui,
Parce
si
que.
c'est pour protéger les patients, c'est une chose, mais si c'est pour avoir une police de la pensée.
Oui, mais malheureusement, en psychologie, nous ne sommes pas une discipline scientifique. C'est vrai que là, on se prend une claque aussi, hein. Moi, j'étais quand même très dans la médecine fondée sur des preuves. Je veux dire, avec les WPAS, tu te dis, ouais, la médecine de quoi? Qui croire?
Ok, alors on passe à la question d'après, ou est-ce que tu
Ouais,
as
alors
épuisé
sur les
la
dangers,
question
j'ai 15
suivante?
pages, hein, donc là,
Combien? 15?
15, non.
Ah oui, quand même. Voilà, donc à toi de développer ton
Alors.
propos. dans le sens que
Pour
tu
le
veux.
danger que je vois, d'abord en tant que psychologue, il y a le fait qu'on incite les jeunes à nier la réalité du corps. Il y a quand même un courant de la psychologie qu'on appelle la psychologie incarnée, qui met l'accent sur l'importance du corps dans la construction de l'identité. Et on est qui on est parce qu'on est inscrit dans un vécu corporel qui nous façonne. Et ça s'oppose au dualisme où il y aurait le corps et l'esprit qui seraient séparés. Et le fait de nier ça, c'est très destructeur parce qu'on ne peut pas vivre en niant une partie de nous. Enfin, je veux dire, là, c'est très dissociatif et c'est très grave. Et on le voit d'ailleurs dans l'expérience qu'on a. Moi, je l'ai en tant qu'animatrice de la Leche League, par exemple. C'est une expérience que j'ai eue de femmes qui se réconciliaient aussi avec qui elles étaient parce que bah, elles n'étaient plus des objets de désir. C'est-à-dire que le fait d'allaiter, je pense que toi, peut-être, tu l'as vécu aussi comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est plus le sein qui est là, il est beau, il n'est pas beau, il est trop gros, pas assez gros, il est l'objet d'un regard un peu lubrique, machin. Ça devient quelque chose qui a une fonction dans notre vie, qui a un rôle. Et donc, du coup, c'est priver aussi les jeunes de la possibilité de se réconcilier avec leur expérience. Et c'est comme ça qu'on accède à la sérénité, dans cette espèce d'intégration de qui on est. Ensuite, je trouve que en termes de société, on est dans la validation du désir immédiat et pas en projetant les jeunes sur le long terme. C'est-à-dire qu'on sait quand même que d'un point de vue neurobiologique, il y a une immaturité quand même du cerveau du jeune adulte et que jusqu'à 25 ans, même s'il comprend les choses intellectuellement, il ne peut pas l'intégrer dans la prise de décision. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conduites à risque chez les jeunes adultes, on va dire une forme d'immaturité dans le comportement. Et que ça s'agit généralement entre 22, 30 ans, où on voit les gens accéder à une temporalité qui est plus du tout la même. Et ça, normalement, la société, elle doit protéger ça. C'est-à-dire que l'adulte, enfin, le vieil adulte, quoi, nous, là, les dinosaures, on est là pour dire, écoute, ça, c'est le plaisir immédiat, mais il y a des choses qui sont plus profondes, plus riches, et ça, c'est la transmission de l'expérience vécue. Or là, on est dans une dynamique où on valorise l'instantanéité. Et on invalide complètement la transmission d'expériences vécues. C'est-à-dire que les mères, puisque là on parle du vécu plutôt d'un point de vue féministe, mais c'est la même chose pour les pères. C'est-à-dire qu'à un moment, quand une mère va dire, ben, écoute, voilà l'expérience de la féminité au-delà des stéréotypes qui sont complètement éculés, enfin ridicules, ça c'est quand on est femme, quand on a vécu. Enfin, je veux dire, il faut avoir 50 ans pour pouvoir dire ce que c'est qu'être une femme. C'est pas à 20 ans qu'on sait ce que c'est qu'être une femme. Et donc, du coup, il y a une silenciation qui se fait. Donc, soit on dit que les parents veulent la mort de leurs enfants, ou alors on crée une espèce de novlangue qui fait qu'on ne peut plus discuter. Donc, on ne peut plus rien transmettre si on ne parle plus la même langue. Moi, je pense que ça crée des fractures intergénérationnelles aussi qui sont extrêmement délétères. D'autant plus que les mères qui vivent cette expérience d'avoir un enfant ou un enfant qui se mutile, ben, du coup, ils n'ont aucun espace d'expression. Même ils n'ont pas accès à la reconnaissance du trauma que c'est. C'est-à-dire qu'on est tellement à leur dire que c'est bien, qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, que non, faut pas qu'ils s'inquiètent. Enfin, c'est tellement anodin de prendre de la testostérone quand on est une femme, qu'ils ne peuvent même pas dire je suis traumatisée parce que je suis en train de vivre. Eux-mêmes ne peuvent pas se le formuler comme ça. Et ils ne peuvent pas en parler parce que s'ils en parlent, les autres vont les rassurer, mais personne ne va vivre ça. Et je sais qu'aux États-Unis, il y a même des groupes de soutien pour les parents, pour leur dire comment réagir, comment accompagner leurs jeunes et tout. Et je ne suis pas sûre qu'en France, ça existe. Mais en tout cas, je sais que moi, j'en vois des mères qui sont extrêmement traumatisées. Et puis, les inquiétudes qu'elles ont par rapport à ça, elles me disent, les médecins, ils sont complètement, enfin voilà, ils ridiculisent, ou alors elles sont très intrusives quand elles disent, ah bah oui, mais est-ce qu'elle va avoir un plaisir sexuel une fois qu'on l'aura opérée? Alors là, c'est dire ça, c'est être vraiment incestuel, quoi, c'est quoi cette mère qui est comme ça? Enfin, du coup, moi, je trouve que c'est quand même assez grave.
Puisque tu poses la question, il y a quand même une association qui fonctionne en France, qui fonctionne assez bien, c'est l'association Hypomonie, Hypomoni, qui, je crois, veut dire patience en grec, et qui justement est une association tenue par des parents et des familles de jeunes qui se croient trans. Et notamment, il y a une part de conseil hein, qui est importante et de transmission de familles qui ont traversé ça. Donc, je pense que si vous traversez cette épreuve, je m'adresse aux personnes qui écoutent, vous pouvez vous tourner vers cette association et peut-être trouver des conseils, des soignants qui seront, comment dire, pas nécessairement transaffirmatifs, qui s'intéresseront vraiment à votre enfant, et puis d'autres parents qui pourront vous aider.
Un autre truc que je trouve très inquiétante, c'est la manière dont ça se diffuse, ces concepts, dans l'espace grand public. Et surtout, ça va de pair avec le fait qu'on ne puisse pas étudier par rapport à ça les mécanismes de contagion sociale. Quand on dit que la diffusion de l'idéologie trans et ce qui est en train de se passer, le caractère un peu épidémique hein, quand même de ces changements, est lié à des phénomènes de contagion sociale, alors on est transphobe, réac, on n'a rien compris,
C'est la
machin.
panique morale. Quand tu entends ces deux mots, tu sais d'où ça vient.
Et en même temps, alors qu'on nous empêche en tant que professionnels d'étudier ces mécanismes de contagion sociale par rapport à ça, on répand cette idéologie partout et d'une manière extrêmement sexy. C'est-à-dire que c'est la pointe du progrès et du sexy d'être avec une double mastectomie. Donc là, j'entendais, je ne sais pas si tu dois connaître d'ailleurs, Gender Wilderlands, tu sais, le podcast, où ils invitaient une ancienne publicitaire. Et il montrait comment dans la publicité actuellement aux États-Unis, il y a plein d'images en fait où on voit des Burberry, des marques très cotées, qui présentent des gamines avec des doubles mastectomies ou des trucs comme ça. Puis vraiment, on voit quoi. Je veux dire, on peut pas ne pas voir que c'est une double mastectomie. Donc on peut pas voir une femme qui allaite parce que ça c'est horrible. Par contre, une double mastectomie, ça c'est pas grave. Et ça c'est inquiétant parce que plus on voit ça, plus on normalise ça, plus on lui donne un caractère de désirabilité sociale. Or, on sait très bien que les jeunes ados qui sont quand même très touchés, elles sont très en demande aussi de désirabilité sociale. Donc là, il y a quand même l'industrie publicitaire qui n'est pas à ce manque d'éthique près. En même temps, je veux dire, c'est quand même la continuation de ce qu'ils font. Mais ils ont quand même une très lourde responsabilité. Mais on ne peut pas les étudier, ces mécanismes-là, parce qu'on nous empêche de le faire au niveau universitaire. Et chez les enfants, l'introduction de la théorie du genre, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas accès au symbolique. Donc, il ne peut pas comprendre la non-binarité. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont des symboles, c'est de l'abstraction, quoi. C'est conceptuel. Donner à un enfant des concepts qui sont aussi complexes, même les adultes ne les comprennent pas. Comment veut-on qu'un enfant de 4 ans, le 4 ans, c'est le faire semblant. Papa, je suis une fille, oui, bien sûr. Et puis moi, mon fils, c'est un chevalier qui tue des dragons en ce moment. Derrière la porte de ma chambre, il y a un dragon énorme et il passe la journée avec un bout de plastique qui est une épée à me protéger d'un dragon imaginaire. Lui enseigner la non-binarité, ça n'a aucun sens. Donc, mettre des enfants en contact avec ça, c'est comme leur dire qu'effectivement, derrière la porte, il y a un dragon. Ils ne peuvent pas comprendre et c'est extrêmement dangereux. Ce qui m'inquiète aussi, c'est le rapport au langage que ça crée. Parce que le langage, c'est une convention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit un arbre, on s'appuie sur les traits essentiels de l'arbre, ça a des feuilles, un tronc, de la sève, et on décide que les choses anecdotiques, on ne les prend pas en compte. Et c'est comme ça qu'on communique. Et en même temps, et ça, toute la littérature est fondée sur ça a aussi une fonction performative, que la lumière soit et la lumière fût. C'est-à-dire que ça fait advenir une réalité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur un théoricien américain qui a été un ancien nazi. Enfin, pas un ancien nazi, mais qui était dans les jeunesses hitlériennes, parce qu'il avait 18 ans pendant la Deuxième Guerre. Et sa grande interrogation, ça a toujours été comment quelque chose qui n'est que symbolique peut faire advenir les pires monstruosités. Comment on peut faire un livre qui justifie les camps de concentration?
C'était quel nom de
Paul
cet
Demant.
D'accord.
Alors après, c'est sûrement l'interprétation personnelle, mais je pense que pour moi, c'est vraiment la problématique qu'il a. Et le langage a une capacité d'auto-engendrement. C'est-à-dire la parole crée la parole. Et tous les auteurs connaissent ça, c'est-à-dire qu'on donne vie à des personnages et au bout d'un moment, ils finissent par exister par eux-mêmes. Mais plus ils existent par eux-mêmes, plus ils s'éloignent de la réalité. Et ça, c'est toujours un enjeu qui est important dans le langage, c'est jusqu'à quel point on accepte que le langage existe indépendamment de la réalité. Et pour ça, il y a des conventions, ça s'appelle le dictionnaire. Le mot veut dire ça. Et il y a plein de stratégies qui sont mises en place. Un livre, on l'ouvre, on le ferme. Enfin, il y a plein de choses qui viennent garantir que la fiction reste la fiction. Parce qu'une fiction qui n'est plus une fiction, c'est un délire. C'est-à-dire qu'un langage qui s'auto-engendre, mais qui n'a plus aucun rapport avec la réalité, soit on dit clairement, c'est une fiction. La terre est bleue comme une orange. C'est une poésie. Mais sinon, on sait qu'il y a une confusion qui se met en place et qui est extrêmement délétère, qui rend fou. Et moi, là, ce que je vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on regarde ce phénomène, il y a une création, une diarrhée verbale qui est hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a des mots tout le temps pour tout. Femme cis, machin, amab, affab, truc ça. Là, j'ai regardé parce que du coup, je me suis un peu intéressée à ça, à un glossaire du planning familial de 6 pages. Merci. Alors, je suis très contente de payer des impôts. Là, je me dis, écoute, mon travail sert à quelque chose. Donc, dans les 6 pages où on nous explique que, bien sûr, il va falloir nous approprier ce terme. Alors, on en prend quand même des choses très chouettes. D'abord, qu'il faut que les termes rendent compte de l'identité vécue. C'est impossible. Je veux dire, un mot, il décrit une réalité. Il ne dit pas une identité. Chaque identité est unique. Donc, un mot qui dit une identité, ça n'a pas de sens. C'est plus le langage, ça. C'est la poésie. C'est la littérature. Ce n'est plus le langage fonctionnel. J'ai appris aussi qu'on pouvait être un homme gay avec une vulve. Alors là, j'ai été très contente de l'apprendre, parce que moi, je suis très réac. Donc, pour moi, un homme gay n'avait pas de vulve. Et j'ai appris
C'est
aussi que
le
ça.
fameux le lexique trans hein, du planning familial, vous pouvez y aller, hein,
Ah
il est
oui, c'est très
téléchargeable en
bien.
PDF, ça peut
Et.
faire l'objet d'une bonne petite soirée entre amis,
Ouais, et
ou pas du
femelle et
tout.
mâle ne s'emploient pas pour nos congénères humains, d'ailleurs. Ça s'emploie pour les autres espèces. Mais ça ne rend pas compte de la multiplicité des organes sexués chez les êtres humains.
La
Alors là, j'adore.
multiplicité.
Ouais, c'est cool d'être un homme. Hein. Donc là, bon, c'est pareil. Je veux dire, quand on va. Bon, en fait, c'est ça, c'est comme la psychanalyse. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quelque chose qui doit rester de l'ordre du symbolique. La castration, machin, c'est pas une castration littérale. Le gamin, il veut pas de complexe de castration, il se balade pas avec un couteau pour couper la bite de son père. Il faut avoir accès un peu au métaphorique, quoi. Là, il n'y a aucun accès au métaphorique, donc tout est pris au pied de la lettre. Et du coup, ça crée une espèce de bulle linguistique qui est complètement délirante et ça ne peut fonctionner que par la silenciation du réel. Parce qu'à un moment, si on commence à dire où est le réel, ça s'effondre complètement. Ne serait-ce que le principe de non-binarité. On ne peut pas être non-binaire si on ne reconnaît pas la binarité. Ça n'a pas de
Oui,
sens.
d'où la violence des réactions quand on commence à annoncer la vérité, quoi. Juste un
Oui.
point sur le planning familial. Tu as dit, je suis contente de payer des impôts. Alors, je tiens à préciser que le planning familial, ce n'est pas une administration, c'est une association qui ne fonctionne que par des subventions. Donc, ça revient au
On est
même, hein,
d'accord.
puisque c'est des subventions publiques qui financent le planning
Bien sûr.
familial. Et bien sûr, il y a aussi quelques cotisations d'adhérentes, mais c'est majoritairement des subventions et également les prestations qu'ils vont vendre, donc, par exemple, aux établissements scolaires pour faire... de l'information sur
Voilà.
les 98 genres différents. Bon,
Donc
c'est
ça,
quand
pour
même nos
moi,
impôts, quoi.
ouais, non, ça, pour moi, c'est très grave.
En revanche, il faut quand même le savoir, hein, il y a quand même des plannings familiaux, comme c'est départemental, il y en a quelques-uns qui résistent et qui ne marchent pas dans cette espèce de délire. Donc, il y a quand même quelques départements où le planning familial continue à assurer sa mission de soutien à la contraception, avortement, santé sexuelle, etc. Mais effectivement, dans beaucoup de départements, bah, on est plutôt dans quelque chose qui dérive. Et pas
Oui.
seulement en France d'ailleurs, hein, parce que le planning
Oui,
familial,
c'est pareil aux
Planned
États-Unis.
Parenthood aux États-Unis, je dirais, j'ai l'impression que c'est
C'est
encore pire.
pire. Le Canada, je crois, ils sont très touchés
En
aussi.
fait, ils se cherchent des nouveaux marchés, quoi.
Vraisemblablement. Voilà, moi, il y a ça, parce que effectivement, un langage qui est complètement coupé de la réalité, ça, c'est très grave, hein, parce que du coup, c'est la cohésion de la société qui est menacée complètement. Ça empêche complètement la communication. Enfin, on ne peut plus communiquer sur des bases. Ça justifie le totalitarisme. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire. Enfin, bon, ça, c'est incroyable. Et bah, du coup, on voit les dérives hein, qui sont actuellement, les violences qui sont mises en place. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que je pense que c'est accentué chez les jeunes parce qu'ils sont très dépendants des réseaux sociaux. Et du coup, ils ont déjà tendance à vivre beaucoup dans la virtualisation du monde. Ils sont quand même très coupés de la réalité. Et donc là, je pense que ça accentue ça. Je pense qu'en plus, TikTok a quand même a eu un impact énorme sur ça. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vu clairement la différence. À partir du moment où il y a eu TikTok, j'ai l'impression que ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et c'est une inquiétude qui est très, très profonde. Je trouve qu'il y a, on va dire, une babélisation de notre société. C'est-à-dire que la communication entre les êtres humains devient de plus en plus difficile. D'une manière qui fait qu'on n'a plus de sens commun, c'est-à-dire qu'on n'avance plus dans la même direction. C'est la fragmentation de la société. Et ça, c'est pas bon pour les jeunes parce qu'ils sont plus vulnérables. Après, moi, en tant que psychologue, j'avoue que j'étais très dans l'evidence-based medicine, là, la psychologie fondée sur des preuves. Donc, je me disais qu'on allait proposer des soins de qualité et qu'enfin, on allait pouvoir sortir des ornières de la psychanalyse et de l'idéologie. Comment dire, je me suis pris quand même une grosse claque parce que quand on se renseigne sur le mouvement trans, ben, on voit aussi évidemment toute la part qui est liée à l'Association américaine de psychologie, qui a une position très lâche par rapport à ça. Et toutes les études soi-disant scientifiques sur lesquelles s'est fondé le système de fraude, qui est complètement délirant dans la recherche aux États-Unis. Les trucs de Peter Boghossian, là, où il a fait publier des canulars dans des super revues, enfin, je veux dire, à un moment, on se dit, voilà, quoi qu'y croire. Et je pense que ça a un impact énorme aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent plus reconnaître le vrai du faux. Et ça donne quand même une image de la science qui est complètement délirante, quoi.
Tu peux développer Peter Boghossian pour que les personnes qui écoutent puissent.
Un philosophe, je crois qu'il est philosophe, hein, il est aux États-Unis, hein, je crois. Et donc, un peu pour rigoler sur les gender studies, quoi, je crois qu'il a fait, hein, une série de canulars, c'est-à-dire qu'il a fait publier dans des revues de haut niveau scientifique des trucs qui étaient complètement délirants. Alors, je ne sais plus quoi, sur le phallus dans les parcs à chiens. Il y avait un truc où il reprenait des extraits, je crois, de Mein Kampf, dans lequel il changeait juif par homme blanc. Et il y en a un certain nombre qui ont été publiés. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est-à-dire que ces revues, elles valent rien.
Oui, c'est une sacrée claque pour la science, en fait.
Pour les sciences humaines, on prend une revue scientifique avec un comité de relecture et qu'on voit qu'ils sont capables de publier tout et n'importe quoi, comme les WPAS, enfin, je veux dire, tous ces trucs-là.
Ouais.
Et à un moment, on se dit, OK, on croit qui là-dedans? Comment on fait pour garantir aux gens qui viennent nous voir la scientificité de ce qu'on fait? Et après, bon, bah là, c'est plus mon domaine, mais c'est la boîte de Pandore, hein. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a plein de domaines qui sont touchés. La psycho, il y a beaucoup d'études qui ne sont pas réplicables. Enfin bon. Donc, c'est vrai que du coup, on arrive dans une espèce de nihilisme. Après, si on n'est pas épistémologiquement et philosophiquement très assis, et notamment sur le matérialisme, c'est-à-dire ce que c'est que la réalité, les grands principes, quoi, de science, ben je pense qu'à un moment, on ne voit plus la différence entre le vrai et le faux. Enfin, ça induit une confusion qui est très délétère, et puis une perte de confiance, quoi, aussi. Et ça, c'est pareil, je ne sais pas si on pourra revenir en arrière. Je ne suis pas certaine que les gens pourront refaire confiance, c'est-à-dire que cette espèce de détachement des élites aussi, à un moment, ils vivent entre eux en vase clos, ils sont complètement déconnectés des réalités du quotidien. Quand la majorité des femmes, moi, que je rencontre, enfin, la caissière du Leclerc, elle sait très bien ce que c'est qu'être une femme. Enfin, si on lui dit, ah, c'est compliqué, il y a des femmes à pénis, ça rigole, elle dit, écoutez, merci bien, moi, j'ai des factures à payer, j'ai autre chose à foutre avec vos
Oui.
conneries. Et donc, du coup, moi, je pense que ça creuse quand même un truc qui va être très difficile.
Et en même temps, on vit quand même dans une société où on a un président qui refuse de nommer un premier ministre depuis un mois et demi. Enfin, je veux dire,
Oui.
c'est pareil, c'est surréaliste. On a l'impression qu'il y a une sorte de déni de la réalité. Bah, il y a eu des élections, t'as perdu, mais oh, bah, il y a les Jeux Olympiques, c'est vachement important. Bah, c'est un peu la
Surtout,
même
faut revoir
chose.
les Jeux Olympiques,
Voilà.
on a eu.
Après, épiloguer. Donc, le parallèle, pour moi, c'est assez évident. C'est-à-dire qu'il y a des faits. Et puis après, il y a des gens qui prennent des décisions et ça n'a pas nécessairement un rapport. Voilà, c'est un peu étonnant dans une
Démocratie.
démocratie.
Donc ça, c'est quand même assez embêtant. Quand on voit, par exemple, que la Société américaine de psychologie, ben, du coup, elle soutient des traitements très invasifs comme les opérations avant la thérapie par la parole, qui est quand même moins invasive, c'est vrai qu'on se dit que là, on a quand même un sacré dysfonctionnement. Et puis, il y a cette espèce de relativisme absolu où tout devient croyance. Ce que disait aussi, je sais plus, l'invité la dernière fois, Catherine, je crois, avec cette idée que dire il y a deux sexes, c'est une croyance, comme une autre. Donc, on protège les femmes, elles sont libres, enfin, d'avoir des croyances comme bah, nous sommes des animaux comme les autres, donc les catégories femelles et mâles, qui sont celles de la reproduction sexuée, bah, elles s'adressent à tout le monde. Et rien que ça, je pense que ça fait déjà pas mal de
Oui,
choses.
mais je crois que c'est au Royaume-Uni que justement les personnes qui sont critiques du genre, elles arrivent maintenant quand même à avoir le
Oui.
droit de pouvoir exprimer leurs opinions. Enfin, non, justement,
Parce que ce sont des croyances.
non pas parce que c'est la réalité, mais parce
Oui.
que leurs croyances sont protégées.
Voilà. Ouais, non, mais
On
c'est.
est l'église de la matérialité. Voilà, alors
Voilà.
comment
Oui, bien
dire
sûr. Non, non, mais c'est. Quand on entend ça, et Dora Mouto, là, le procès qu'il y a, c'est ubuesque.
Mais en même temps, je me dis c'est une chance parce que,
Oui, c'est un mal pour un
je veux
bien.
dire, à un moment donné, ça permet d'en parler, quoi. Je veux dire, dire que Mariko est un homme, Si ça doit t'emmener au tribunal, ben, il faudrait qu'on soit nombreuses à le dire d'un seul coup, puis ça les calmerait un peu.
Oui, je pense que c'est important, effectivement, que beaucoup de gens le disent, parce que s'il y a une personne qui le dit, alors c'est la seule cible.
Voilà, bon, moi je le dis aussi, hein, du coup, mais je pense qu'on est nombreuses, hein, et voilà, je vous invite à dire la vérité, tout simplement.
Et donc, du coup, il y a ça, et puis il y a aussi la menace que ça fait peser sur les communautés homosexuelles, parce que c'est la négation de leur essence même, quoi. Quand on dit un homme gay à vulve, enfin, je veux dire, c'est pareil, quoi.
Oui.
Il n'y a plus d'hommes gays dans ce cas-là.
Et surtout, il n'y a plus de lesbiennes du tout.
Oui, ben, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de lesbiennes et il n'y a plus d'homosexuels, quoi. C'est pratique. Enfin, bon, après, voilà, c'est tout le truc sur l'homophobie aussi, qui
Clairement,
peut.
on voit bien que la société préfère les personnes trans aux personnes homosexuelles. Ça, moi, ça me questionne. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je comprends pas.
Après, ça, c'est le côté. Moi, je pense qu'il y a une perte de valeur dans la société occidentale qui est abyssale, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à témoigner? Est-ce que tu as déjà subi des pressions? Est-ce que tu as subi des menaces? Comment tu te sens par rapport à ton entourage? Est-ce que tu peux parler librement de ce sujet?
Alors, moi, j'ai décidé de ne pas témoigner de manière anonyme. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on soit libre de parler, parce qu'il y a quand même des pressions qui sont très fortes. D'abord, parce qu'il y a un fossé de génération, c'est-à-dire que quand on a des enfants qui ont une vingtaine d'années, ça reste un sujet qui est très compliqué à aborder. Ensuite, parce que je pense que les jeunes ne perçoivent pas la violence de ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils disent cis, machin, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, à quel point c'est violent et réducteur, parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la féminité que les vieilles femmes comme moi peuvent avoir. Et donc, du coup, que moi, personne à utérus, je trouve que c'est horriblement dégradant, humiliant, violent. Quand je dis ça, les gens me regardent, enfin les jeunes, parce qu'ils ne voient pas du tout. Pour eux, c'est très progressiste de dire ça, c'est hyper inclusif. Donc, comme moi, je dis, je trouve ça hyper humiliant, ils ne voient pas trop le problème. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit libre, mais je pense qu'il faut témoigner parce qu'il y a des femmes comme toi, comme Sophie Robert ou d'autres à l'étranger qui sont très exposées et que vous êtes d'autant plus exposées que les femmes qui ne le sont pas se taisent. Et donc, il faut faire front, quoi. Il faut que chacun prenne sa part. Donc, c'est ma manière à moi de prendre ma part. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit, pour participer à ça, il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça, c'est il faut parler. Même si on a l'impression qu'on n'a rien à dire, c'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on a à dire qui compte, c'est le fait de parler quand même.
Merci beaucoup là, pour tout ce que tu dis, déjà pour le fait de, pour ce que tu perçois de nos situations, c'est vrai, mais aussi pour le fait que l'idée du podcast, c'est vraiment ça, c'est vraiment, il faut que les femmes aient un espace de parole et puissent s'en saisir, et même si on comprend parfaitement que c'est difficile et que moi, enfin moi personnellement, je ne pousse jamais les femmes à témoigner de façon où on puisse les identifier parce que je connais les risques, malheureusement. Hein, donc, mais déjà parler, c'est déjà énorme. Et effectivement, de toute façon, on n'a pas forcément toutes des trucs extraordinaires à raconter. Par contre, on a toutes des angles et des choses différentes qui nous font réagir.
Bien sûr, quand on dit bah, je vais parler pour dire être une femme, c'est avoir un utérus et une vulve, on se dit mais c'est tellement banal, je ne vais pas prendre la parole pour dire ça.
C'est peut-être banal, mais malheureusement, tout le monde
Oui,
n'ose
mais
pas le dire.
malheureusement, il faut le faire parce que sinon, il y a les deux qui ont le courage de le faire à voix haute vont se prendre tout. Donc ça, il faut qu'on soit. Je pense que là, c'est vraiment l'idée, moi, ce que je pense important dans le podcast, c'est de faire nombre.
Ouais, il faut que je réfléchisse aussi à une façon de faire nombre. Peut-être que je devrais ouvrir un peu plus mes stories pour que les femmes qui le veuillent puissent dire quelques mots. Je vais réfléchir à ça,
Ah
peut-être
moi, je pense que
faciliter
plus on sera
l'expression.
nombreuses, il faut être nombreuses. Je pense
Ouais.
que c'est pas être, c'est peut-être di juste dire je ne suis pas d'accord. Mais on est dans une société du langage aussi.
C'est
Donc,
vrai.
c'est l'augmentation. Il faut 15 fois une étoile pour faire une mauvaise réputation, même si ça n'a pas aucune validité.
C'est vrai.
Parce qu'on
Oui.
nous impose une minorité. Ce qui va faire, je pense, changer les choses,
Et
c'est
puis on
qu'on se
nous
rende compte.
silencie. Moi, je vois bien sur
Voilà.
Instagram, là, ça doit faire à peu près un mois que j'ai un nombre d'abonnés qui ne fait que diminuer, alors que j'ai de plus en plus de vues. Donc, ce n'est pas normal. Et je pense que tout simplement, il y a quelque chose qui est mis en œuvre pour que ma visibilité soit réduite. Hein. Et donc, ma visibilité, ce n'est pas la mienne, personnellement. Moi, je n'ai rien à dire de personnel. C'est bien la voix des femmes.
comme le hashtag XX qui est interdit, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous faites le hashtag XX sur Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram, eh bien, il est bloqué, alors que le hashtag XY, lui, est valable. Donc, femme, pas possible, c'est bloqué. C'est quand même parlant.
Après, c'est sûrement ce qui va se passer pendant un moment. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a une forme de reflux en Angleterre.
Oui, mais
Donc,
il y a des forces de rappel qui sont très fortes. Hein. Je veux dire,
oui, c'est
il y a
ça, c'est
des
sûr.
dizaines de milliers d'années de patriarcat, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut tenir bon. Tenir bon
Oui.
et se serrer les coudes entre nous. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur un événement qui t'avait marqué concernant la transidentité ou le transactivisme?
Alors, moi, ce qui m'a marqué récemment, c'est j'ai un patient qui a changé de sexe sur sa carte d'identité, alors qu'il n'a eu aucune opération, quoi que ce soit. Donc juste, il est allé faire des démarches très simples hein, pour pouvoir dire non, je suis quelqu'un d'autre que ce que je suis. Mon sexe n'est pas mon sexe. Et dans la même période, j'avais un autre patient qui a subi l'inceste et qui a voulu changer de nom. Le nom qui est purement conventionnel, c'est-à-dire le sexe est une réalité, le nom patrimonial familial quoi, est une convention. Et là, il a fallu justifier. Donc, il a fallu le suivi, les machins, des justificatifs, des bidules. Et j'avoue que ça m'a fait bizarre de voir la facilité avec laquelle on pouvait changer de sexe sur l'état civil et à quel point c'était difficile quand on avait subi des violences sexuelles de demander à porter un autre nom que la personne dont on a été victime. Ça m'a fait très bizarre. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose de très...
C'est triste, c'est scandaleux, c'est bah, ça en dit long, hein, c'est encore toujours
Oui.
pareil, hein, ça en dit long sur les violences sexuelles qui sont complètement occultées et acceptées. Franchement,
Mais
waouh, je
bon,
suis un peu sidérée d'entendre ça.
ouais, c'est ça, les deux au même moment, quoi. C'était espèce de truc où j'ai vu la jeune me dire j'aurais peut-être besoin d'un courrier. Puis, ah, non, non, il n'y a pas besoin. Et à côté, la patiente qui me dit ah, il me faut ça, puis un relevé avec l'ensemble des consultations, et puis un truc où j'explique sa démarche, qu'elle n'a pas de trouble.
Wow.
Un autre exemple que j'ai, c'est une dame qui est venue en consultation pour me dire qu'elle est extrêmement mal et elle n'arrivait pas à savoir pourquoi. Et c'est seulement après 30 minutes d'entretien que d'un seul coup, elle me dit, et puis, ma fille m'a annoncé en début d'année qu'elle était trans et elle va se faire changer son sexe. Et donc, du coup, d'un seul coup, elle s'est effondrée, cette dame. Et elle a pris conscience, je pense, qu'elle était très traumatisée au point que moi, je lui ai proposé de faire de l'EMDR. Parce que ça, sûrement, je pense que là, ça crée des séquelles. Puis c'est le deuil, quand même, de plein de choses. Surtout que cette femme-là n'avait pas réussi à avoir d'enfant naturellement. Donc elle savait ce que ça impliquait.
Mais on sous-estime vraiment le traumatisme de la famille, des parents, des frères et sœurs, qui sont négligés quand même,
Oui.
comme si ça comptait pas, quoi.
Ben, je pense qu'on ne le sous-estime pas, on le cache sciemment. Parce qu'on se rend très bien compte. On ne prendrait pas autant de temps pour leur faire croire qu'ils disent n'importe quoi et leur dire qu'ils veulent la mort de leur gamin si on ne voulait pas leur vendre des vessies pour des lanternes.
Je pense qu'on est sur la dernière question maintenant, qui est finalement, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
J'espère qu'on pourra faire marche arrière, mais j'en suis pas certaine. Et ça me préoccupe beaucoup. Ça me rend très pessimiste.
C'est triste comme conclusion.
Les dégâts qui ont été faits sont irrémédiables. Les
Raison de plus
fractures.
pour arrêter ça très très vite, hein,
Oui,
parce que
non, mais ça, d'abord les dégâts sur les gamins qui ont
oui.
subi ça, les
C'est clair
gamins.
qu'il y a une génération là qui morfle, hein. Vraiment.
Oui, et sur la perte de repères que ça induit, ça les coupe complètement de la réalité. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très grave.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que sur certains, c'est irrémédiable et que c'est pour ça que moi, je me bats et que j'ai le sentiment d'essayer de prendre la marée de vitesse. Mais en même temps, je me dis aussi que la nature, elle est têtue, hein, elle va continuer à produire des filles et des garçons et que un jour, on regardera ça en se disant, mais n'importe quoi. Donc la question,
Oui.
c'est combien d'enfants seront sacrifiés entre-temps?
Oui, mais pour moi, enfin, c'est ce que je te disais au début, pour moi, c'est un moment dans quelque chose qui est global, de transhumanisme. Il y a eu la chirurgie esthétique, il y a le métavers, il y a l'intelligence artificielle, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'hubris, là, pour moi, dans ce qui est en train de se passer, où il y a une coupure avec la réalité qui est de pire en pire, en fait. C'est juste un temps, j'espère que non. Mais malheureusement, j'ai peur que ce ne soit qu'un phénomène dans une dynamique plus globale.
Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.